Épargnez-moi les détails, le podcast qui va vous donner envie d'investir. Épargne, investissement, finances personnelles, préparez-vous à parfaire votre éducation financière et à explorer de nouvelles opportunités pour repenser votre avenir financier. Je suis Didier Testot, journaliste et fondateur de La Bourse et la Vie TV, et chaque mois, je recevrai Antoine Ferraillant, le directeur général de MoneyOne, qui renouvellera votre idée des finances personnelles. Antoine, bonjour.
Bonjour Didier.
On va parler avec vous de l'immobilier, c'est le sujet de cette rentrée, et avec une première question qui vient forcément à l'esprit. Est-ce que nous sommes dans une crise immobilière ?
Alors, le mot crise est effectivement sur toutes les lèvres et il est, je le pense, trop fort par rapport à la situation actuelle. On est aujourd'hui dans une crise inflationniste qui a eu comme conséquence justement une remontée des taux. Donc cette remontée des taux, elle est là pour justement répondre à cette inflation qui est très haute. Et la remontée des taux a un impact, et non pas seulement sur la classe d'actifs immobilière, mais sur l'ensemble des classes d'actifs. Quand on regarde le marché obligataire aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs un très bon exemple la semaine dernière, Fnac et Darty ont émis des nouvelles obligations pour se refinancer, elles n'ont pas trouvé preneur sur le marché, parce que justement, cette hausse des taux est venue, je dirais, écraser la prime de risque, puisque les taux sans risque aujourd'hui rémunèrent 3%. Et donc les entreprises sont, elles, obligées, pour attirer des liquidités, de se refinancer à des taux qui sont attractifs et qui donnent envie de prendre du risque. Donc ça, c'est sur le marché obligataire. Sur le marché actions, on a des marchés actions qui se valorisent, mais un petit peu en trompe-l'œil, parce qu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont directement impactées dans leur bilan et donc dans leurs résultats via les bénéfices, parce que le coût du produit fini et surtout de la matière pour le construire est bien plus important qu'auparavant. Donc l'immobilier n'est pas épargné, et cette hausse des taux, parce qu'elle a été violente, et surtout dans un laps de temps très court, l'immobilier, la hausse des taux, si on avait remonté les taux de 0,5% tous les ans pendant 5-6 ans, le marché immobilier aurait été capable d'absorber cette hausse des taux. Sauf que là, on a une remontée de 400 points de base sur 18 mois, et de facto, il y a eu un impact sur la valorisation de la classe d'actifs immobilière, qu'elle soit, je dirais, d'habitation. Et on le voit bien aujourd'hui, les particuliers ont moins accès au crédit, donc il y a moins de transactions, et donc de facto, ça tire les prix vers le bas. Et encore, ça dépend quels sont les secteurs. Les secteurs qui sont très attractifs continuent à se valoriser. Et bien sur l'immobilier d'entreprise, c'est exactement la même chose. Il y a moins de transactions, donc de facto, ça tire les prix vers le bas. Et il y a des stratégies qui s'en sortent mieux que d'autres avec des localisations et des réponses à des besoins des locataires qui sont aujourd'hui justes et qui permettent à ces actifs de se valoriser.
Alors s'il ne s'agit pas d'une crise immobilière, en tout cas toute seule quelque part, on peut quand même se demander quel sera l'impact sur l'immobilier et est-ce qu'il sera aussi violent qu'en 2008 où on a eu une crise qui avait été spectaculaire.
Alors, les deux périodes ne sont pas comparables. En 2008, on a une situation où les banques ont prêté à des particuliers qui se retrouvaient insolvables. Et les banques, se refinançant entre elles, il y a eu un effet un petit peu domino sur le marché et de facto, ça a entraîné, une vraie crise avec un choc très important parce que la banque A qui se refinançait auprès de la banque B ne retrouvait plus ses avoirs. Aujourd'hui, on est malgré tout sur l'immobilier d'entreprise avec des fondamentaux qui sont bons, des taux d'occupation financiers qui sont très bien orientés et un taux de paiement des loyers qui est également très très bien orienté. Donc on n'est pas face à une crise où on va se retrouver en manque de cash-in, entre guillemets, puisque les SCPI notamment on continue à délivrer leur rendement. Je rappelle, une SCPI, la première promesse de ce produit-là, c'est le revenu additionnel. Est-ce que ce revenu additionnel est mis à mal par justement des locataires qui se retrouvent dans une situation à ne pas pouvoir payer leur loyer ? La réponse est non. Donc la première promesse de ce produit est maintenue du fait qu'on a une distribution des loyers qui n'est pas mise à mal. Maintenant, la deuxième question qui est sous-jacente et intrinsèque au produit, c'est que vaut mon actif ? Et là, effectivement, cette hausse des taux a eu un impact sur la valorisation des actifs en tant que tels. on le voit depuis l'été 2023, où certaines sociétés de gestion ont annoncé des baisses au niveau des prix de part parce que justement, les actifs étaient surévalués par rapport à un instant T. Donc de facto, on a des valeurs de réalisation qui influent sur le prix de part et donc des sociétés de gestion qui ont été obligées de baisser leur prix de part par rapport à une valeur plus juste pour l'investisseur de demain.
Si je me place du côté de l'investisseur, j'ai investi au cours des dernières années dans les SCPI, je vois ce qui se passe en ce moment, je peux me poser des questions, mais si j'étais déjà investi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?
Une baisse des prix de part, de facto, si je suis investi, je constate une moins-value. Maintenant, quelle incidence ça a sur le portage de mon produit dans le futur ? Je le rappelle, baisse des prix de part ne veut pas dire baisse du rendement. Donc le rendement intrinsèque à la SCPI, lui, demeure. Donc, est-ce qu'on peut le voir sur la durée comme une reconstitution de mon prix de part futur ? Ça peut être une première explication. Mais la première raison pour laquelle j'ai acheté ma SCPI, c'est pour avoir du revenu complémentaire, et ce revenu complémentaire, il n'est pas mis à mal. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, si j'ai acheté et que je me suis bien fait conseiller, j'ai normalement acheté un gestionnaire qui gère bien sur la durée. Et donc, de facto, avec cette baisse constatée, l'objectif du gestionnaire va être de se repositionner sur des actifs à un meilleur prix et qui, sur la durée, peuvent permettre une revalorisation future me permettant de reconstituer mon prix de part. Est-ce que la durée conseillée sur le produit qui est de 10 ans va être un petit peu plus longue pour reconstituer ce prix de part ? La réponse est oui, mais une fois de plus, le rendement de ce produit-là n'est pas mis à mal.
Alors je me mets maintenant à la place de celui qui regarde tout ce qui se passe en ce moment sur l'immobilier, qui voit des baisses de parts, des baisses de prix, des baisses de l'immobilier, des titres qui sont effectivement violents. Lui, est-ce qu'il peut se dire comment il se positionne ? Est-ce qu'il peut y aller aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut s'y intéresser ?
Alors effectivement, les articles de presse et parfois le vocabulaire employé peut faire un peu peur. Maintenant, c'est toujours dans des creux de marché que se sont fait également des fortunes. Alors je ne veux pas présager du futur, loin de là. Maintenant, si je me mets à la place de l'investisseur, que ce soit sur l'immobilier ou sur n'importe quelle autre classe d'actifs d'ailleurs, je préfère rentrer sur un marché qui vient de décoter et sur lesquels les valeurs d'expertise sont au bon prix. Mais je vais m'arrêter un peu sur la valeur d'expertise parce que pour expliquer typiquement ce que c'est, l'expert, lui, va donner une valeur qui pense être la valeur réelle du marché. Donc, c'est-à-dire, demain, je suis gestionnaire, je mets en vente mon immeuble, voilà la valeur à laquelle je vais pouvoir le vendre, la valeur juste du marché. Donc, si je reprends l'exemple avec l'habitation, si je suis détenteur d'un appartement et que je juge, moi, qu'il se vend 12 000 euros du mètre, mais que le marché me dit que ton appart, il vaut 10 000, la valeur réelle, c'est 10 000 euros. Donc, je préfère rentrer dans un produit qui est plus représentatif de ce qu'est la valeur du marché plutôt que rentrer sur un produit qui est surévalué. Donc, demain, si je suis investisseur, la réponse est que je préfère rentrer sur un produit qui est plus qui est à la valeur du marché. Maintenant, une fois de plus, il faut s'arrêter sur la qualité du gestionnaire, qu'est-ce qu'il a donné par le passé, même si ça ne présage pas des performances futures, c'est quand même un très bon indicateur sur sa capacité de pouvoir gérer vos actifs dans le temps.
Merci Antoine.
Merci Didier.